Et oui, la campagne, mon invité connaît, hein. Il vient d'un petit village des Pyrénées-Orientales, un village où on roule les airs entre douceur de vivre, odeur de terre et détonation des chasseurs. Mais c'est pas la nostalgie, hein, qui le tient. Dans son livre Le réveil de la France oubliée aux éditions du Roger, c'est l'urgence d'un sursaut nécessaire pour que vivent les campagnes et qui sait qu'elles prennent leur revanche sur la ville. Bonjour Anthony Cortès.
Bonjour, bonjour à tous.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va le parcourir, hein, votre joli petit livre, pas si petit d'ailleurs. Ce village dont vous venez, on va peut-être tout de suite le nommer, on va également le situer, Anthony Cortès.
Mon village, c'est Millas, dans les Pyrénées-Orientales,
et voilà,
à côté de Perpignan.
C'est Millas, à côté de Perpignan. Comment est-ce qu'on y vit là-bas aujourd'hui? Est-ce que c'est tellement différent d'autrefois de ce que vous avez connu petit?
Non, bien sûr, c'est à peu près la même chose, évidemment. Il y a toujours cette même culture, cette même façon de vivre, toujours ces mêmes familles qu'on a connues et qu'on connaît sur plusieurs générations. Simplement, ce qui a changé, c'est des commerces qui sont malheureusement un peu plus rares, qui ont fermé, des services publics aussi qui s'éloignent, alors que pourtant on est un village plutôt bien doté. Mais c'est un trait que l'on retrouve malheureusement dans beaucoup de villages, cette désertification.
Et oui, forcément. Hein. Et de fait, votre livre offre une description sans concession, hein, du désarroi des campagnes. Vous l'écrivez, hein, les commerces qui ferment, les services publics qui se raréfient, les âmes même qui s'évaporent. Il y a ce taux de pauvreté important. Qu'est-ce qui a été le détonateur pour vous de la rédaction de ce livre? Qu'est-ce qui vous a mis en marche? Parce que vous vous êtes mis en marche, hein, vous avez arpenté la France.
C'est ça, j'ai arpenté la France pendant un peu plus d'un an. Alors le déclencheur, alors d'abord évidemment c'est une histoire personnelle. J'avais envie de rendre un hommage particulier à ma terre. Quand je dis à ma terre, c'est vraiment à toute la ruralité, parce que je pense qu'on peut trouver des traits communs, une culture commune, et puis même une volonté de se bouger, d'inventer, qui est propre aux campagnes. Et puis ensuite, il y a un deuxième élément, c'est le mouvement des Gilets jaunes aussi, parce que ça, même si on a retenu que le bruit, le fracas de ces manifestations, il y a aussi quelque chose qui s'est créé, qui s'est inventé, et un sursaut d'orgueil aussi propre à la France périphérique, comme on dit, mais aussi à la France rurale qui s'est retrouvée sur les ronds-points, qui s'est retrouvée dans des assemblées populaires, et quelque part on a vu une France qui n'était pas habituée à prendre la parole, se soulever justement et dire voilà, nous aussi on peut exister. Donc moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est d'une part évidemment cette France que je connais, que je connaissais par mon village, et cette France qui s'est engagée, qui quelque part ne font qu'un.
Le réveil jaune, hein, vous écrivez à propos des gilets jaunes. Qui sait effectivement si la revanche des campagnes ne viendra pas de ce réveil jaune. Alors votre livre fait aussi l'écho du ras-le-bol des élus locaux. Vous citez notamment le président de l'Association des maires ruraux de France des Hautes-Pyrénées. Les habitants du monde rural ne peuvent plus attendre les calendes grecques pour voir émerger des solutions concrètes à leurs problèmes de vie quotidienne. C'est Gérard Clavé dans les Hautes-Pyrénées qui dit ça. Il y a comme une urgence dans votre livre, comme une urgence. Il faut y aller, sinon quoi?
Sinon, c'est la mort, malheureusement, parce que c'est vrai que on voit aujourd'hui, pour parler des politiques tout d'abord, les politiques qui sont très mal pensées, vu de Paris, vu de l'échelon central. C'est-à-dire que on voit dans les politiques, dans les différentes réformes territoriales et les politiques de modernisation, comme on dit, des politiques pensées uniquement pour faire des économies et pas malheureusement pour valoriser les richesses et les possibles de ces territoires. Donc il y a une urgence. Sinon, la mort, parce qu'on le voit dans ces territoires, les commerces de plus en plus rares, je le disais, les services publics qui s'éloignent. Et oui, il faut y aller, parce que malheureusement, les politiques sont tellement mal pensées que maintenant, dans ces villages, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans un reportage, on se dit qu'on peut changer les choses uniquement par nous-mêmes, d'où ce mouvement d'autonomisation que je décris. Donc oui, il faut y aller, il faut des vies supplémentaires pour un événement.
Alors, pour être très complet quand même et rendre à César ce qui est à César, vous parlez du Parlement rural, de l'agenda rural. Le gouvernement, en tout cas celui-là, a peut-être commencé à vouloir faire changer les choses?
Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a eu cet agenda rural qui est très très ambitieux. Il y a aussi un plan qui a été lancé par Édouard Philippe pour ranimer les bistrots, ces bistrots qui s'éteignent et qui sont des éléments essentiels de ces villages pour créer du lien social entre les habitants, qui sont malheureusement encore trop rares. Il y a un premier pas qui est lancé. Alors malheureusement, c'est toujours pas assez parce que on l'a vu par exemple sur cet agenda rural, il y a beaucoup de propositions qui sont encore en chantier, d'autres qui n'ont pas du tout été lancées. D'ailleurs, les maires ruraux le disent, voilà, ça va pas assez vite. On a une urgence, on devrait accélérer. Mais bon, il y a quand même du positif. Puis d'ailleurs, même sur la couverture en 4G et en 5G, on avance aussi petit à petit. Voilà, les zones blanches s'éteignent peu à peu. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Il y a encore du travail. Alors, il n'est pas sans paradoxe, hein, votre livre, hein, car d'un côté, Anthony Cortès, vous déplorez, et on le comprend aisément, vous déplorez les territoires moribonds, sans commerce, sans services publics. D'ailleurs, on apprend au passage que moins il y a de postes, plus on vote Front National, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre. Donc ça, vous le déplorez, et en même temps, vous militez pour que la campagne ne soit pas la pâle copie de la ville. Vous écrivez, ce n'est qu'en développant cette identité, cette façon d'être à part que les campagnes pourront aller de l'avant. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Alors, ben, tout simplement, je pense que les villages et la campagne peut concurrencer la ville, mais elle ne doit pas essayer de la concurrencer sur le même terrain. C'est-à-dire que, pour moi, elle est capable de créer un contre-modèle. Moi, ce que je vois dans les campagnes, en tout cas en rural, en enfant de ruraux, c'est une culture particulière, c'est-à-dire une communauté restreinte, une façon d'innover, comment dire, une sensibilité aux thèses écologistes aussi. Et je pense que la ruralité a beaucoup à gagner à miser sur ça plutôt que parce que voilà, les codes et la culture de la ville, c'est plutôt malheureusement l'individualisme, une certaine déshumanisation. Les villages, c'est tout le contraire. C'est une vie en communauté, en communauté restreinte, avec une solidarité appuyée. C'est sur ces outils-là qu'elle doit appuyer. Et puis en plus, elle a des richesses particulières. On le sait depuis très longtemps. Évidemment, la France rurale, c'est l'héritière de la France paysanne. Donc, il y a une agriculture qui mérite encore d'être poussée sur ces territoires. Et d'ailleurs, on le voit dans le livre. Je donne beaucoup d'exemples avec des initiatives autour du circuit court qui naissent un peu plus. Et là aussi, ça peut être un avenir au moment où on est allé beaucoup trop loin dans les échanges internationaux et où on voit que la France a du mal à s'autosuffire par elle-même. Je pense que la réponse peut venir des campagnes et les campagnes peuvent tirer leur épingle du jeu en misant sur ses atouts.
Ça veut dire qu'elle doit capitaliser sur sa différence en fait plutôt que concurrencer la ville et courir derrière, c'est ça?
C'est exactement ça, parce que elle a beaucoup d'atouts. Il faut simplement que ses habitants et ses élus, je sais qu'ils y croient. Voilà, il faut lancer une espèce de mouvement collectif, de mouvement d'utilité publique pour répondre à cette urgence.
Et alors, il y a une autre problématique qui émerge dans votre livre, c'est la nécessaire peut-être réconciliation entre la vision fantasmée de la campagne que les citadins ont parfois avec la volonté, la nécessité de modernité des ruraux, parce qu'au fond, ça leur va bien aux citadins, cette gigantesque maison de repos qui fleure bon le folklore et l'ancien temps, hein.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on l'a vu au début du Covid, hein, on a vu ces vagues de citadins venir sur la campagne, certains à leur résidence secondaire et puis d'autres qui se sont posé la question sur leur existence et en se disant est-ce que la ville me correspond. Mais c'est vrai que ce folklore-là, ce regard doucement sympathique, fait pas forcément de bien aux campagnes parce que si on la prend comme une maison de repos, si on la prend comme un jardin quelque part des citadins, elle n'avancera jamais, elle restera immobile, elle restera au statut de jardin. Alors qu'au contraire, ce qu'a besoin les campagnes, ce sont les citadins aussi, bon, les ruraux évidemment, qui doivent rester et s'impliquer, mais aussi des citadins pour avoir amené un nouveau souffle de vie. Mais par contre, la condition, ce sera de s'engager, c'est d'intégrer la communauté, d'intégrer un cercle avec une culture particulière, des habitudes aussi qui se sont forgées le long de générations. Donc voilà, il faut qu'il y ait des citadins qui y aillent, mais il faut qu'ils aient une bonne volonté et qu'ils y aillent en toute humilité.
Et oui, parce que la ruralité, vous l'écrivez aussi, Anthony Cortès, la ruralité, c'est une aventure commune. Et de fait, des initiatives, vous en faites émerger un certain nombre dans votre livre. Vous avez parlé au début de notre entretien d'un mouvement d'autonomisation des campagnes. Et on le voit, elles se prennent par la main, des initiatives fleurissent partout. Il y a, je cite pêle-mêle, à Mazères-sur-Salla, le maire qui a racheté les murs de l'usine, c'est en Haute-Garonne. Il y a l'école de Kérigu en Ariège qui a été reprise par deux mères de famille. Et puis il y a ces Poustomioles, j'aime bien le nom, hein, c'est les habitants de Poustomi en Aveyron qui font vivre les fêtes ancestrales. La campagne doit créer sa propre modernité.
C'est ça, exactement. Elle doit créer sa propre modernité. Elle doit créer sa modernité avec des idées innovantes, mais aussi avec les recettes du passé. Par exemple, vous avez donné trois exemples en Occitanie. Il y a aussi des exemples. Par exemple, je pense à Trémargat en Bretagne, qui a vécu de grandes années, son âge d'or, grâce à l'agriculture. Et aujourd'hui, il faisait un peu du surplace. Et le maire a décidé de créer une SCI, une société civile immobilière, pour racheter les terres autour du village et les proposer à moindre coût à des néo-ruraux ou à des locaux. Et ça a fait repartir l'agriculture locale. Cette production-là, elle a été distribuée par une épicerie qui a également été ouverte par la mairie, qui a été reprise par des associations de citoyens. On voit là, en fait, avec cet exemple, qu'on arrive à remettre au goût du jour les recettes d'antan, en tout cas celles qui ont fait notre grandeur, poussées par une certaine solidarité, une certaine coopération, et avec aussi un certain nombre d'idées poussées par une certaine coopération. Donc on voit que c'est possible. Simplement, il faut malheureusement déployer des efforts infini quand on est ruraux et qu'on veut refuser la mort qu'on nous promet parfois dans les médias et dans certains essais. Mais en tout cas, il y a cette force et il faut capitaliser là-dessus.
Et vous avez une jolie formule dans votre livre, hein, Le réveil de la France oubliée, aux éditions du Rocher. Cette formule, c'est la suivante: comment conjuguer le bon vieux temps et celui qui vient. Anthony Cortès, ce combat, qui doit le mener? C'est les ruraux, les maires, la politique en haut lieu, c'est tous ensemble?
Je crois que c'est un combat d'utilité publique, donc oui, c'est tous ensemble, parce que aujourd'hui on voit, on a un pays et une population qui est quelque part à bout de souffle. Alors on voit d'un côté les ruraux qui ont un horizon bouché, on voit les citadins qui sont en quête de sens et qui sont quelque part comme des électrons un peu trop libres et qui ne comprennent plus vraiment le sens de leur existence. Donc je pense que c'est un mouvement d'utilité publique, parce que on doit aller vers une réhumanisation des villes et une revitalisation des campagnes. Il faut aller vers ces deux utopies-là. Donc oui, le sursaut des campagnes, en tout cas le réveil des campagnes, doit être porté par tout le monde, par les citoyens à leur échelle, parce que ce sont leurs territoires, ils sont capables de lancer des idées, et en plus c'est l'échelon où on peut vraiment innover et lancer des projets, parce que c'est petit, parce que on trouve toujours des interlocuteurs à qui parler. Et puis c'est le rôle des élus locaux, parce que ils le font d'ailleurs, ils n'ont pas attendu pour le faire, mais ouais. même s'ils ont des compétences un peu trop réduites de plus en plus par les différentes réformes, avec des compétences qui vont vers la communauté des communes, vers le département, la région, etc. Et on s'y perd un petit peu dans ce millefeuille. C'est à eux aussi de le porter. Et puis enfin, c'est aussi aux chefs d'entreprise. Je ne parle pas évidemment des immenses entreprises, mais des PME, des TPE-PME, de s'installer dans ces campagnes, de faire confiance à ces territoires, parce que on est capable d'innovation et on est capable de dynamisme en ruralité.
Et vous en donnez beaucoup d'exemples dans votre livre. Finalement, hein, après les gilets jaunes, ce Covid, la période de confinement et puis la quête de sens, c'est peut-être une chance pour les campagnes. L'avenir, ça va s'écrire au village. Ça sera ma dernière question, Anthony Cortès.
Oui, je crois que, en tout cas, je crois que ça peut s'écrire au village. Voilà, comme vous le dites, il y a plusieurs éléments. Il y a le mouvement des Gilets jaunes qui a bien fait comprendre qu'il y avait une envie de réveil, en tout cas, qu'il y avait un sursaut d'orgueil de cette population. Il y a le Covid qui réveille de son côté les citadins, qui leur fait prendre conscience que la rivalité est autre chose qu'un petit jardin. Et puis en même temps, il y a des politiques aussi qui prennent conscience que on va dans le mur, hein, en ne misant que sur les métropoles, parce que c'est ce qui est fait depuis des années et des années dans les différentes politiques publiques. Et je pense que pour notre pays, le temps de se tourner vers les campagnes, de se tourner
Est
vers
arrivé.
ce haut potentiel est arrivé. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup, Anthony Cortès, pour ce beau cri du cœur,
Merci
ce
à vous.
bel hommage que vous faites aux campagnes, à nos villages. Je vous recommande la lecture de ce livre, Le réveil de la France oubliée. C'est aux éditions du Rocher. Ça vient de sortir et c'est génial. Merci à vous.
Merci, merci beaucoup.